Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, chaque institution a ses anecdotes et il en est de même pour l'Académie des sciences. En 1867, une affaire scientifique va défrayer la chronique. Un académicien révèle, avec documents à l'appui, que c'est le philosophe Pascal qui est à l'origine de la découverte des lois de gravitation universelle, et non pas Isaac Newton. Alors l'affaire déchaînera les passions jusqu'au dénouement 2 ans plus tard. Je n'en dis pas plus puisque nous allons en parler en détail avec Jean-Paul Poirier qui a repris cette histoire dans un livre intitulé « Mystification à l'Académie des sciences » et paru aux éditions du Pommier. Jean-Paul Poirier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints ici au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers et physicien émérite à l'Institut de physique du Globe de Paris. Alors, régulièrement, j'ai cru comprendre, vous vous plongez dans les archives de l'Académie, ou en tout cas des archives de la Bibliothèque nationale, et vous avez mis à jour cette affaire assez amusante, il faut le dire, et décidé de la raconter dans ce livre. Alors, si vous le voulez bien, nous allons planter le décor. Nous sommes en 1867 et c'est un certain Michel Challes, que les lycéens connaissent en géométrie pour la relation de Challes, qui va arriver un jour avec des documents en sa possession.
Oui, alors Michel Challes était un géomètre de grand talent, qui était même très reconnu à l'étranger, même par les Anglais, et c'était déjà à l'époque déjà un vieux monsieur et qui était très estimé par sa courtoisie, tout à fait charmant. Et un jour, l'Académie des sciences, qui était présidée par Chevreul. Alors Chevreul, c'était un grand chimiste, et qui était lui très très vieux déjà, puisqu'il est mort à 102 ans. Et alors Challes propose, il dit voilà, c'est le bicentenaire de la fondation de l'Académie française, enfin du moins quelques années après. Et à cette occasion, je voudrais faire hommage à l'Académie de lettres qui ont rapport avec la lettre de Rotrou, etc., qui ont rapport au cardinal de Richelieu, qui ont rapport avec la fondation de l'Académie française. Alors je prie le président de bien les accepter en hommage et les lettres autographes. Alors, le président dit très bien, merci. Mais il dit, mais à ce propos, d'ailleurs, vous m'avez parlé d'une affaire, vous avez en votre possession des documents qui montreraient que Pascal, dont l'œuvre scientifique est bien connue, aurait, avant Isaac Newton, trouvé les lois de la gravitation. Alors, vous pourriez peut-être en parler à nos confrères avant de publier ce que vous avez à publier. Alors, Charles répond, dit oui, bien sûr, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mais enfin, écoutez, je déférerai volontiers à votre désir et la prochaine fois, je vous apporterai des documents. La prochaine fois, fidèle à sa parole, Charles arrive avec quelques documents, des petits bouts de papier signés Pascal et d'une encre un peu jaunie sur des papiers l'air anciens et qui ont l'air de montrer, il dit voilà, enfin, ça, je ne redis pas exactement les textes, mais qui montre, qui dit voilà, ça, clairement, ça voudrait dire que Pascal a montré la gravitation universelle avant. Alors, il y a des lettres à Boyle en particulier, le chimiste anglais, le irlandais, et puis. Des petites notes personnelles qui montreraient qu'il avait compris que c'était la gravité variait en 1 sur R2 et que ça se passait comme ça à la surface de la Terre, et puis pour les planètes, c'était pareil, etc.
Et ces lettres étaient datées ?
N'étaient pas datées spécifiquement, mais comme on sait que Pascal était bien avant Newton, de toute façon, il faisait ça quand Newton était un petit garçon. Donc, ça paraît... Ça paraît intéressant, mais alors, il y a quand même, dès le premier jour, il y a un physicien qui dit, mais enfin bon, non, il dit que maintenant, ça pourrait suffire, le fait qu'il a trouvé ça, que ça varie comme l'inverse du carré de la distance, il dit, avec ça, on peut tout expliquer, ça suffirait à montrer. Il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Pour montrer que, par exemple, que les orbites des planètes sont des ellipses, ben, on ne peut pas le faire sans le calcul différentiel qu'a inventé Newton, mais des années plus tard. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement comme ça.
C'est Jean Duhamel, c'est ça, qui
c'est
a
Duhamel,
pris la
c'est
parole
Duhamel
pour remettre
qui n'est pas
déjà
resté
en question.
À la postérité, comme ah bon, mais qui était assez connu à l'époque. Bon, alors, la séance se passe, on parle d'autre chose, et puis à la séance suivante, Charles arrive avec des petites lettres de Pascal à Newton.
Alors voilà, c'est ça, la séance suivante,
ah, oui.
Il revient avec de multiples preuves, cinq lettres.
Où il lui raconte pratiquement, il dit voilà mon jeune ami, il le prend sous sa protection, c'était un garçon, Newton était à ce moment-là un garçonnet de 14-15 ans, il dit voilà mon jeune ami, vous qui êtes, qui vous intéressez aux sciences, alors blablabla, et lui donne pratiquement le... Mais tout ça ne suffit pas à persuader, vraiment.
Alors justement, j'ai un extrait, parce qu'on le trouve dans votre livre, d'une lettre de Pascal, enfin attribuée à Pascal écrivant à Newton, et il écrit « Mon jeune ami, je vous fais parvenir par l'intermédiaire d'un de mes amis qui va faire un voyage en Angleterre, une liasse de petits écrits que j'ai réunis à votre intention et pour servir à votre instruction, ainsi que vous me l'avez témoigné par vos lettres. Ce sont des notes, réflexions et pensées touchant les sciences, entre autres les lois de l'attraction et de l'équilibre. Je vous engage à les lire avec attention et j'ose espérer que vous y trouverez quelque chose qui vous sera agréable et vous portera à réfléchir sur le système du monde, tel est mon désir. » Ça sous-entend en plus que Newton s'est servi des connaissances de Pascal pour pouvoir...
Absolument, et c'est ça qui rend la chose très grave. Parce que, du coup, on se dit, mais alors, Newton, il n'a jamais parlé de Pascal dans ses écrits, il n'a jamais fait allusion à Pascal, et alors, donc, non content que Pascal ait la priorité, en plus, Newton est un escroc. Il a profité, il a piraté Pascal, et il ne le cite même pas. Donc, c'était doublement dangereux. Alors, évidemment, du point de vue relations internationales, ben, ça n'a pas manqué.
Bon. Ah, les Anglais, je pense, se sont manifestés assez tôt.
Très tôt. Brewster, qui était un physicien, lui, connu, un opticien connu, qui était spécialiste de Newton. Il avait écrit une biographie de Newton, il avait tous les documents, il avait eu accès à tous les documents de la famille, de sa nièce, etc. Et il dit, mais ça n'existe pas. Jamais il y a eu la moindre correspondance entre Pascal et Newton. Dans les papiers de Newton, il n'y a jamais eu ça. Et puis, pendant ce temps-là, il y avait des Français, des littéraires, des spécialistes de Pascal. Qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ce style n'est pas le style de... style d'une limpidité, d'une clarté de Pascal. Et puis, d'abord, sa signature est fausse, c'est pas sa signature. Mais tout ça semait des doutes, un certain nombre. Mais le problème, c'était que Charles arrivait à la séance d'après avec d'autres lettres de un tel à un tel, etc. Et on faisait intervenir pratiquement tout le monde pour justifier ça, pour dire que Newton, effectivement, le savait, il aurait dû mentionner Pascal. Et alors, des lettres pratiquement... Tout le gotha de la science, le bottin mondain de la science européenne à l'époque était mêlé. Il y avait des lettres de chacun à tout le monde. Et chaque fois, ça répondait à une objection qui avait été soulevée dans la séance du lundi précédent.
Alors justement, à l'Académie, est-ce qu'il y avait vraiment une guerre des tranchées? Est-ce que les avis étaient très partagés?
Alors, à l'Académie, bon, comme d'habitude, quand il y a groupe important de gens, bon, il y a ceux qui sont là, qui ne disent rien, qui écoutent, et puis il y en a qui sont dans les deux camps. Alors dans les camps, il y avait, bien entendu, il y avait les physiciens et les astronomes. Contre, c'était pas possible, et d'abord, ça ne tenait pas la route du point de vue physique et astronomique. Bon, il n'était pas possible qu'il ait pu dire ce qu'il disait, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu long, mais il n'est pas possible de dire ce qu'il disait, compte tenu, par exemple, de ce qu'on savait du diamètre de la Terre à l'époque de Pascal. Bon, d'ailleurs, la preuve, c'est que la théorie de la gravitation de Newton, il a essayé de voir comment ça pouvait marcher pour la Lune, mais pour ça, il fallait qu'il sache comment ça marchait à la surface de la Terre. Et on avait un chiffre du diamètre de la Terre qui n'était pas bon, qui était trop petit. Ce n'est que une vingtaine d'années plus tard, quand il y a eu une meilleure détermination du diamètre de la Terre, que Newton a pu reprendre ses calculs et montrer que ça marchait. Donc, il était impossible que Pascal ait su ça, donc ça ne pouvait pas marcher. Et il donnait des chiffres qui étaient finalement les mêmes que ce qu'il y avait dans les derniers papiers de Newton, ce qui non plus n'était pas raisonnable. Bon, chaque fois, il y avait... Alors, et d'un
mais
autre
à l'époque,
côté,
le doute était quand même présent.
Pour les...
Pas pour alors, les physiciens.
Les physiciens, les astronomes n'y croyaient pas. Il y avait quelques partisans, des gens qui disaient, mais enfin quand même, ça paraît, regardez l'écriture, regardez tout ça, enfin... Bon, et puis des gens qui, finalement, je crois, voulaient pas faire de la peine à Charles, quoi, bon, c'est qu'il était un brave homme, etc. Mais pas beaucoup, mais je pense que si Charles n'avait pas été un homme aussi charmant, les choses se seraient terminées beaucoup plus vite.
Alors là, c'est pour l'Académie des sciences, mais il y avait l'opinion publique, puisque c'était une affaire qui est devenue nationale.
Ben, bien sûr, ça c'était une autre affaire. Il y avait, à l'époque, il y avait bien sûr les journaux qui, tous les journaux le mardi matin, les sciences étaient le lundi à l'époque, tous les journaux le mardi matin avaient un petit article racontant ce qui s'était passé à l'Académie des sciences. Et donc, c'était connu du grand public, de ceux qui lisaient le journal des débats, le constitutionnel, etc. Alors, suivant un petit peu la couleur politique des journaux, les tendances étaient différentes. Il est évident que, la perfide Albion, personne n'était mécontent, enfin, beaucoup de gens étaient parfaitement contents en France de voir que, les Anglais, ça leur clouait le bec un petit peu, et que, si on montrait que, d'une part, Pascal avait trouvé avant Newton les choses qui font la gloire de Newton, et que d'autre part, Newton était finalement une espèce d'escroc qui n'avait pas cité Pascal tout en prenant ses idées, ce n'était pas mauvais pour l'idée qu'on se faisait des Anglais. Il y avait toujours eu des petits problèmes, on le sait bien, entre l'Angleterre et la France. Hein, bon, et même malgré l'alliance, etc., c'était quand même un petit peu tangent. Et donc, et puis il y avait beaucoup de revues de vulgarisation, un petit peu comme maintenant, comme la Recherche, etc. En particulier, il y avait Les Mondes de l'abbé Moigneau.
Qui, lui, pensait que Charles avait raison.
Et il pensait que Charles avait raison. Et il disait. Il était convaincu par les lettres, par les arguments, par l'accumulation de toutes ces preuves. Et c'est justement cette accumulation qui donnait des doutes sérieux aux autres. Ça paraît un peu
et c'est surtout qu'elles apparaissaient
comme ça. Bah oui.
Alors, juste après
juste
avoir
au bon moment,
eu des
ça répondait
des,
chaque fois aux
contradictions.
Questions. Alors mais pour d'autres ça les convainquait, cette accumulation de preuves, pensait-il entre guillemets, leur paraissait ça. Alors il y avait des journalistes qui ne croyaient pas, en particulier un journaliste qui était un très bon vulgarisateur qui s'appelait Wilfried de Fonvielle, qui s'est rendu un peu célèbre à l'époque parce qu'il faisait de l'aérostation. Et il avait écrit pas mal de livres, etc., et qui disait non. Alors ça, il était, lui, tout à fait convaincu que ça ne marchait pas, et il en a profité pour ridiculiser pas mal l'Académie des sciences. Bon, ça, et alors, tous ses articles étaient intitulés la mystification académique, etc. C'était,
et d'où le titre de votre livre.
Un petit peu, oui.
Je vous propose de marquer une pause, Jean-Paul Poirier, et on se retrouve tout de suite après pour évoquer la suite et surtout le dénouement et savoir ce qui s'est réellement passé à l'Académie des sciences. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Retour à notre émission Au fil des pages en compagnie de Jean-Paul Poirier avec qui nous discutons d'une mystification à l'Académie des sciences qui est donc le titre de votre livre Jean-Paul Poirier paru aux éditions du Pommier en 2001 et qui raconte une anecdote assez amusante à savoir un jour Michel Chasles arrive avec des lettres de Pascal apparemment et qui prouverait que Pascal est le véritable découvreur ou en tout cas a mis en valeur le premier les lois de la gravitation universelle. naturel et ne serait donc pas Isaac Newton, l'auteur principal. Alors, suite de ces événements, Michel Chasles arrive avec beaucoup, beaucoup de documents. Et comme vous le disiez avant la pause, c'est qu'effectivement, ces documents, plus il y en a, plus les doutes sont importants pour les scientifiques, alors que pour d'autres, ça devient vraiment une source sûre, cette accumulation.
Bien sûr, tout ça, ça a pris un moment. Et toutes les semaines, dans les comptes rendus de l'Académie, il y avait une relation de ce qui s'était passé, de ce qu'on avait raconté. Toutes les semaines. Alors, de plus, il y avait des gens. Alors, Galilée a été mis dans le coup, Huygens, etc. Bref, ça devenait une affaire quasiment internationale. Et chaque fois, c'était pour apporter des preuves nouvelles. Alors, bon.
Ça dure 2 ans ?
Ça dure pratiquement 2 ans. Ça dure 2 ans. Jusqu'au moment. Alors, Le Verrier, qui n'était pas un homme complaisant...
Qui était l'Académie des sciences.
Qui était l'Académie des sciences et qui venait de découvrir la planète Neptune, donc il était directeur de l'observatoire. Ça n'a pas resté très longtemps parce qu'il s'était fait tellement détester qu'il a été obligé d'être éliminé. Mais a fait un rapport pendant plusieurs séances sur le problème à l'Académie, qui est d'ailleurs d'une c'est magnifique, de clarté et de bonne foi. Là, il fait un rapport parfaitement... en montrant que ça n'est pas possible, que ces lettres sont obligatoirement des faux. Bon, ça ne peut pas être autre chose. Alors, on demande à Charles de se, un petit peu dire, mais d'où viennent-elles, de toutes ces lettres qui arrivent là, que vous ne pouvez pas nous dire, enfin, un petit peu vos sources. Et il dit, ah, non, je ne peux pas, c'est vraiment parce que... Alors, il avait peur. Charles était un collectionneur d'autographes, et il avait quelqu'un qui lui fournissait ses autographes, en lui disant... Écoutez, voilà, c'est un vieux monsieur qui a une collection extraordinaire. Alors, il est un peu dans la gêne maintenant. Il est un peu obligé de s'en défaire. Ça lui fend le cœur, mais c'est petit à petit. Moi, j'ai réussi à voir. Mais alors, si jamais on en parle, alors ça sera terminé. La source va être tarie immédiatement. Et Charles ne voulait pas ça. Il voulait continuer. Alors, il dit, non, je ne peux pas vous le dire, etc. Or, en fait, bien entendu, je dis tout de suite, là, parce qu'on s'en doute depuis un moment, cet homme-là... venait voir son fournisseur de manuscrits, d'autographes, venait voir Charles tous les lundis soirs. Charles sortait de la séance de l'Académie, il disait, oh, c'est quand même vraiment...
Il lui expliquait tous ses malheurs.
Pas de chance. Hein. Là encore, ils m'ont donné des arguments en disant que c'est pas possible. Enfin, moi, je crois pas, c'est forcément possible, que si, que ça. Et alors l'autre disait, oh, écoutez, ben, je vais tâcher de voir si par hasard, fouiller dans la collection de mon client, là, voir si quelquefois on pourrait, vieux monsieur, s'y trouver quelque chose qui pourrait... Et, miracle, avant la séance de la semaine d'après, il arrivait avec 2 ou 3 lettres, ou même beaucoup plus, qui s'en voyait bien, ça prouve que, etc. Et donc, chaque fois, il répondait à la demande. Et ça s'accumulait, c'était absolument extraordinaire. Alors, Charles lui avait acquis un nombre considérable, pour une somme rondelette, un certain nombre de documents comme ça. Et alors, les choses se sont terminées. Bien, encore une fois, les gens, ça devenait une affaire de patriotisme, de croire que Charles avait raison. Et non, au contraire, c'était des mauvais Français qui pensaient qu'il avait tort. Mais à l'Académie, on regardait ça d'un œil extrêmement ouvert. Et alors, à la fin, Charles est arrivé en disant, ben voilà, mon fournisseur, le type qui m'apportait des choses, eh ben, il fallait faire arrêter. Alors, on a découvert qu'il l'avait fait arrêter. Non pas parce qu'il pensait que c'était faux, mais parce qu'il avait peur qu'il s'en aille à l'étranger avec d'autres documents.
En fait, Charles n'avait jamais eu la puce à l'oreille.
Non, jamais vraiment. Et alors, à l'Académie, ça s'est terminé. Bon, le président de l'Académie, à ce moment-là, a dit, bon, écoutez, voilà, c'est terminé. Bon, on regrette que ça soit passé si mal, mais bon, enfin, en tout cas, il n'y a aucune ombre sur le caractère de Newton. Et qui d'ailleurs était associé étranger de l'Académie. Hein, bon. Donc, tout est bien comme ça. Bon, donc, ça s'est terminé pour l'Académie. Charles était évidemment un peu mortifié, mais enfin, bon, ça s'est arrêté là. Mais la justice ne l'entendait pas de cette oreille. Étant donné que le faussaire avait été arrêté, on avait découvert chez lui un petit peu du matériel, etc. Et donc, il y a eu un procès.
Donc finalement, à la base, ce faussaire a été arrêté, mais pour d'autres raisons.
Un peu pour d'autres raisons, mais finalement...
Et voilà. De fil en aiguille, on a découvert qu'il était faussaire, pour le coup.
Oui, bon, tout le monde le savait, et ça s'est arrivé comme ça, mais enfin bon. Donc il a été jugé par le tribunal correctionnel de la Seine.
Et c'est là d'ailleurs qu'on en sait un peu plus sur lui.
Alors on en sait un peu plus sur lui, mais pas beaucoup plus hélas, parce que c'est un personnage tout à fait fascinant. Alors donc on sait qu'il s'appelait Vrain Denis. Vrain, c'était son prénom. On voit souvent maintenant, quand on lit que Vrain Lucas, comme si Vrain Lucas était son nom de famille. Donc Vrain était un prénom, il y a des endroits qui s'appellent Saint-Vrain, etc. Donc Vrain, trait d'union Denis, et son nom de famille était Lucas, qui était compatriote, entre guillemets, de Charles, ce qui lui avait permis de s'introduire auprès de lui d'ailleurs. Charles était d'Épernon en Eure-et-Loire, et l'autre était d'un petit village voisin. Il avait eu une carrière un peu... disons à la limite des choses, en étant d'abord un petit peu clerc d'avoué, puis il avait été dans un cabinet de généalogie où il pouvait fabriquer un petit peu sur demande des documents pour les personnes qui souhaitaient un ancêtre un peu plus prestigieux. Que le leur. Et voilà. Et puis finalement, on ne sait pas trop comment il s'est mis à faire des faux. Il en a fait une quantité considérable.
27 000, j'ai lu.
C'est fou, oui, pas petit. Il devait y passer ses jours et ses nuits. Il fallait qu'il se documente, parce que c'était quand même pas totalement farfelu. Il fallait quand même avoir un certain fond de vraisemblance.
Est-ce qu'il copiait pour le coup des livres? Est-ce qu'il recopiait?
Il reprenait un certain nombre de livres qu'il copiait, il allait chercher dans les choses, mais enfin, il fallait le temps de la recherche, le temps d'écrire tout ça. Il se fabriquait une encre qui avait l'air un petit peu vieille, fanée, il vieillissait son papier, etc. Mais ce papier était moderne. Très souvent, il y avait même des filigranes avec des dates. C'était écrit d'une écriture qui avait l'air, pour quelqu'un qui n'était pas archiviste paléographe, qui avait l'air un peu ancienne. Et puis, le style était du pseudo-vieux français, c'est-à-dire du vieux français de cuisine. Et donc, ça ne tenait pas du tout la route, mais ça avait l'air un peu vieux. Et Charles, qui aurait aimé y croire. Donc, au procès, qui a été un procès qui a été mondain, tout le monde se précipitait... Et le président demande à Lucas, mais qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? Parce que Charles avait payé une somme considérable. Et alors, en plus, quand Charles avait l'audace d'émettre un petit peu de doute, dire, est-ce que vous, parce que quand même, tous les confrères lui disaient, auprès de son fournisseur, là, de Lucas, il disait, écoutez, est-ce que vraiment... Écoutez, il disait, bon, si vous n'avez pas confiance, rendez-moi les documents, je vous rends votre argent. Et immédiatement, je dis, non, pitié. Et il continuait. Et donc,
cet argent,
le président lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent? Il a dit, j'ai éprouvé des malheurs. On n'en a jamais su plus. Il a été condamné à quelques mois de prison. Bon, la guerre de 70 est arrivée là-dessus. Il est ressorti, il a refait des petits trafics de voler des bouquins, etc. Et puis, il a été recondamné une fois et on n'en a plus jamais entendu parler. Et ce qui est bien dommage, parce que c'est le personnage est tout à fait intéressant, c'est un petit peu frustrant de ne pas en savoir davantage sur lui.
Alors justement, comme vous le disiez, au tribunal, ça a attiré les foules, tout le monde voulait savoir ce qui s'était réellement passé, et notamment on retrouve cette anecdote dans des livres, notamment d'Alphonse Daudet, et puis aussi de Maurice Allais.
Alphonse Allais fait une petite allusion dans une de ses petites nouvelles, mais Daudet a fait un roman entier qui s'appelle L'Immortel, où il met en scène le perpétuel de l'Académie française. Avec un caractère de vraiment pas sympathique du tout, alors que Charles l'était. Mais alors, le point amusant et dont Daudet profite bien, c'est que parmi tous ces documents qu'il avait faits, que Charles avait achetés, il y avait aussi des documents qui n'avaient rien à voir avec Pascal. Il y avait alors des lettres d'Alexandre à Aristote, des lettres de Cléopâtre à Jules César, des lettres de Lazare après sa résurrection à Saint-Pierre, des lettres de... Enfin bon, etc. Absolument, de Charles Quint à Rabelais.
Et tout en français?
Tout en vieux français, soi-disant. Enfin,
Cléopâtre à César en français?
Absolument. Mon âme et des lettres d'Héloïse à Abélard, à Jules César, cher et âmé, etc. Bon, Charles était un grand naïf, il n'était quand même pas complètement sot. Et la réponse était que tout ça avait été des lettres originales qui avaient été traduites par Alcuin au Moyen-Âge.
Il avait déjà une explication toute prête.
Donc voilà, ça c'était évidemment pas les originaux, mais c'était des traductions du Moyen-Âge des originaux. Alors ces lettres, précisément, c'était un éclat de rire. Quand on a parlé de tout ça autrement, c'était un éclat de rire. Et de fait, les lire encore maintenant, et on peut les lire.
Où pouvons-nous les lire?
Eh bien, elles sont... Une grande partie est à la Bibliothèque nationale, et une partie importante est à la Bibliothèque de l'Institut de France. Et elles ont d'ailleurs été exposées, du moins certaines ont été exposées il y a quelques années. Et alors, c'est extraordinaire. Alors, justement, Daudet fait allusion à la lettre de Charles Quint à Rabelais en lui disant « Vous qui êtes savant, vous ne pourriez pas me faire la quadrature du cercle, enfin, etc. » Des choses absolument. Et donc, ça a été plus que... En fait, c'est ça qui a frappé le public, avec quelques raisons, plus encore que le problème de Pascal et de Newton. À l'époque du procès, c'est ça qui a vraiment amusé tout le monde, quoi.
Et Michel Schall, alors, qu'est-il devenu après cette affaire ?
Michel Schall avait sa réputation scientifique qui n'a pas souffert du tout. Bon, bien sûr, ça n'a aucun rapport. C'était le Michel Schall, collectionneur d'autographes. Bon.
Mais il n'a pas été raillé par ses pairs ou même dans les journaux ?
Un homme très gentil. Bon, alors les journaux, évidemment, non, peu raillé, mais pas plus lui que l'Académie qui en avait parlé si longtemps alors qu'on pouvait faire ça tout de suite, etc. Et je pense effectivement que si l'Académie en a parlé si longtemps, c'était justement parce qu'on ne voulait pas faire trop de peine à Charles, qui était un brave homme que tout le monde aimait bien. Donc, il avait une réputation scientifique considérable, il a fait beaucoup de choses tout à fait savantes, mais il y avait aussi le problème qui est arrivé là-dessus, qui était un petit peu, qui a servi à certains journalistes polémiques, c'est qu'il avait eu à l'Académie le siège d'un quelqu'un qui avait été exclu de l'Académie. C'était un mathématicien de talent, qui est d'origine italienne, qui s'appelait Guillaume Libri. Il avait la nationalité française, il était considéré comme un grand savant, et il avait été nommé inspecteur des bibliothèques et des manuscrits, etc. Il en profitait pour découper des manuscrits, voler un certain nombre considérable de manuscrits. Alors lui, il les achetait pas, il les volait. Mais ils étaient authentiques.
Ils étaient authentiques.
Et donc, il se faisait de l'argent comme ça. Et donc, il a été dénoncé, mais juste avant la révolution de 48, donc il est parti en Angleterre, et les journalistes en ont profité pour dire « Ah, le successeur de M. Libri, etc. » Ce que ça faisait pas très bien dans le tableau non plus.
Eh bien, je vous remercie Jean-Paul Poirier de nous avoir donné tous ces détails que l'on peut retrouver dans votre livre « Mystification à l'Académie des sciences » paru aux éditions du Pommier en 2001. J'invite nos auditeurs à écouter les autres émissions que nous avons eu le plaisir d'enregistrer ensemble, notamment sur Antoine Dabadie et puis également sur le noyau terrestre qui là rejoint votre spécialité de physicien. Je rappelle bien sûr que vous êtes membre de l'Académie des sciences. Merci d'être venu nous voir et puis à une prochaine fois pour l'écriture, la publication d'un prochain livre. À très vite, au revoir.
Merci à vous.